nous allons parler de la fidélité et du jardin secret. Deux aspects ce matin, fidélité et jardin secret. Fidélité qui est un pilier du mariage à l'Église, mais comme je vous l'ai dit aussi, qui fait partie des engagements dans le mariage civil. Quand vous écoutez le code que vous lit l'officier ministériel qui vous marie, etc., il vous lit le code, et entre autres, il y a la question de la fidélité. Comment entendre au début, je parlais même pas de ce sujet-là. Pour moi, c'était tellement pas un sujet. Bon, je me suis dit, voilà, les gens qui sont là en face de moi s'engagent dans le mariage, là. Et puis, progressivement, j'ai eu affaire à des personnes qui, au sein de la préparation du mariage, ont manqué à la fidélité. Et je me suis dit, waouh, les temps changent, et du coup, ça fait partie, par exemple, d'une des raisons où j'arrête la préparation. Il y a quelques raisons où j'arrête d'accompagner le couple complètement, entre autres parce que j'estime qu'il n'y a pas une maturité, il n'y a pas un apaisement dans l'affectivité nécessaire. Et pour moi, là, ça c'est tolérance zéro, c'est un truc, je suis psychorigide, c'est là-dessus, c'est la question de la fidélité, tolérance zéro. Comment la comprendre, cette fidélité ? La comprendre de deux manières. On peut dire la fidélité à l'intérieur du couple et la fidélité du couple par rapport à l'extérieur. Donc intérieur et extérieur. Intérieur, c'est-à-dire dans la relation de couple elle-même. Fidélité, vous savez, ça vient de fides fidei en latin, qui veut dire foi, qui veut dire confiance. Tout ça, c'est la même racine. Comment vous pouvez me dire, mais comment est-ce qu'on peut manquer de fidélité à l'intérieur du couple ? Oui, on peut manquer de fidélité à l'intérieur, sans aller voir ailleurs. On peut manquer de fidélité à l'intérieur du couple quand on ne rentre plus dans une logique de don. Quand on ne met pas la vie de couple en premier. Mais hier, on a vu avec la question de la vie professionnelle, quand par exemple, la personne met la vie professionnelle en premier, fait de sa vie professionnelle l'axe de sa vie et que la vie de couple doit s'ajuster à ça, ça c'est un manque de fidélité à l'intérieur, parce que ce n'est pas la communion qui devient le critère de décision. Et ça on en a parlé hier soir, hein, hier fin d'après-midi plus exactement, avec vie pro ou vie perso. Est-ce que c'est la communion qui est le critère de décision ? Ou est-ce que le couple est à la remorque de mon projet professionnel, par exemple, parce qu'on m'a donné une ascension professionnelle, une promotion, etc. Du coup, tout le monde doit déménager, tout le monde a famille, etc. etc. Et ça c'est pas en place. On ne met pas un manque de fidélité à l'intérieur du couple, c'est de ne pas mettre le couple comme le cœur de tout, le critère de vos décisions. Et là, je pense que ça, c'est... Et puis, il y a une autre manière à l'intérieur du couple de manquer de fidélité en ne rentrant plus dans une logique de don. Il y a une forme d'enfermement. Il y a une forme de... C'est saint Thomas d'Aquin qui dit, en parlant des vœux religieux, les vœux religieux, c'est en fait un engagement à la conversion, des mœurs, comme on dit. Hein, Saint Benoît parle de ça, la conversion des mœurs. Le moine doit se convertir, par les vœux, il s'engage à un style de vie qui l'invite à se convertir. Hein, c'est-à-dire se convertir, c'est-à-dire se tourner vers le Seigneur. Mais il est déjà moine, il est déjà converti. Non, mais on ne termine jamais de s'ajuster à l'Évangile. Et donc, du coup, Thomas d'Aquin dit, qui est un philosophe et théologien du XIIIe siècle, dit, celui, le religieux, qui cesse d'être dans une attitude de conversion, c'est-à-dire de travail, qu'on dirait de travail sur soi-même aujourd'hui, dans un langage plus psy, je vais dire, qui cesse de se convertir, eh bien, il a déjà rompu ses vœux, même s'il n'est pas allé voir une femme, même s'il n'est pas, je ne sais pas quoi, il n'a pas désobéi ou s'est pointé avec un bien de luxe, etc. Il n'a pas manqué gravement la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Même si extérieurement, il a gardé les choses, dans son cœur, il a manqué à la fidélité. Parce qu'il n'est plus dans une logique de conversion. Et donc, appliquant ça au couple, je veux dire, on peut très bien manquer de fidélité à l'intérieur du couple quand on n'est plus dans une attitude de don l'un envers l'autre, de se convertir, de se tourner vers Alors se tourner vers l'un vers l'autre, vers le conjoint, et se tourner vers ensemble vers le Seigneur. Mais donc du coup, c'est intéressant de voir que, en fait, qu'est-ce qui fait le lit de la du manque de fidélité à l'extérieur, c'est-à-dire vraiment de la tromperie. Qu'est-ce qui fait le lit, bien souvent, les manques de fidélité à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne trouve plus mon compte dans la relation affective que je vis parce que je sens que je ne suis plus la priorité de l'autre. L'autre a d'autres priorités. Et donc, il a fait le tour de moi, etc. On sent que voilà, ça n'intéresse plus. Il est plus moteur. Il est plus moteur pour notre couple, de nous mettre nous en priorité. Vous voyez, de nous mettre. Voilà, il est plus. En général, ça commence aussi par un très grand espacement des relations intimes du couple, parce que la relation, comme je vous l'ai dit hier, la relation intime du couple renvoie à la relation tout court. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir cette. Parce qu'on n'y pense pas, on n'y pense pas tellement, c'est que la fidélité n'est pas simplement quelque chose de statique, c'est-à-dire ne pas aller voir ailleurs. La fidélité, c'est rentrer dans un dynamisme du don. Et donc, du coup, de don de mon temps, déjà, c'est quelque chose que le bien le plus précieux que l'on a, ce n'est pas notre compte en banque, c'est notre temps, parce que le temps, on ne le récupère pas. Don de mon temps, hein, don de mon énergie, don de ma créativité, don de ma sensibilité, don de ma spiritualité, et mutuellement, parce que c'est là où ça commence à être compliqué, quand c'est plus mutuel, quand c'est plus réciproque. Qu'il y en a un qui donne pour le couple, et l'autre, en fait, il regarde vers l'extérieur du couple, donc il est déjà dans un manque de fidélité. Il n'est plus dans le couple, il regarde à l'extérieur. Il ne regarde pas forcément une autre femme ou un autre homme, non, il regarde autre chose. Mais il n'est pas son regard, son cœur, qu'on dit le cœur dans la Bible, c'est-à-dire l'orientation de sa personne n'est plus à l'intérieur du couple. Oui, donc ça, c'est le manque de fidélité à l'intérieur, donc d'un manque de dynamisme, de manque de priorité. Et puis, par rapport à l'extérieur, ce qu'on appelle les tromperies et l'adultère, qui est quand même, ne l'oubliez pas, à la racine de l'immense majorité des séparations. C'est l'adultère. Donc ne vous pensez pas au-dessus des autres, ne dites pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Du coup, moi, c'est un certain nombre de critères et de mises en garde. Premièrement, pas de one-to-one avec les personnes de l'autre sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et singulièrement dans le monde professionnel, quand dans le monde professionnel, vous avez quelqu'un qui vous dit, mais tiens, mais pourquoi on n'irait pas boire un pot ensemble, et que régulièrement il fait la demande, ou dès que vous sortez pour faire votre pause, etc., il est là ou elle est là, etc., dites-vous que dès que vous laissez entrer quelque chose, dès que vous laissez franchir, c'est une barrière invisible, j'allais dire. C'est invisible qui fait que l'autre dit non, là je ne peux pas passer. Mais quand vous semblez comme abaisser cette barrière-là pour laisser entrer l'autre dans une forme d'intimité, de partage, de ce que vous vivez, etc., etc., vous êtes en danger. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé au début de votre relation. Vous avez laissé rentrer l'autre dans votre intimité, vous avez commencé à partager vos sentiments, ce que vous ressentiez, etc. Donc, il y a une garde du cœur et une garde du regard. Et moi, je dis pas de one-to-one avec les personnes de l'autre sexe, parce que ça crée, si vous voulez, là-dessus, je suis assez psychorigide là-dessus, parce que je trouve que, oui, mais alors, on peut vouer le mal partout, etc. Non, c'est si vous accueillez quelqu'un, vous accueillez quelqu'un dans votre couple. C'est un bon ami, vous pouvez avoir des amis garçons-filles selon le cas, d'avant. Il ne s'agit pas de casser les liens, mais de redimensionner les liens. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Je pense que de ce côté-là, c'est important d'être attentif de « Oui, mais mon père, on se connaît, on était en culot de course, ok. » Il y en a qui sont en culotte culte ou sont mariés et femmes aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que l'autre pense. Et le fait d'entretenir de laisser une porte ouverte, de laisser, je prépare un couple, etc. Et elle m'a dit, moi je me pose très régulièrement cette question-là quand je prépare au mariage, je dis, mais est-ce que vous vous êtes trouvé dans des situations ambiguës? À vous faire, en un mot comme un sang, à vous faire draguer. Mais pas autant vous devez vous draguer entre fiancés, ça, il n'y a pas de problème, mais à vous faire draguer par une personne extérieure. La jeune femme dit oui, je me suis retrouvée par quelqu'un que je connais, que je pensais être un ami, mais qui m'a, on pensait, mais. Et du coup, il commence à me faire sa déclaration alors que j'avais ma bague de fiançailles au doigt. Je veux dire, type, il a peur de rien. Et puis, bon, et puis, de loin en loin, il commence à, ça faisait un an parce qu'on était amis sur LinkedIn, etc. Il me souhaite bon anniversaire de rentrer dans l'entreprise. Je dis, bon, tu vois ça, un truc comme ça, des trucs comme ça, tu l'enlèves de tous tes contacts. Donc, même si vous devez enlever la moitié de vos contacts, vous enlevez vos ex de vos contacts, même si c'est la moitié de vos relations que vous devez, sur lesquelles vous devez faire un trait. Moi, je dis, brûlez les ponts avec les ex. Et puis la fille, elle dit, est-ce que je vais pas l'inviter à mon mariage? Je lui dis, mais ça va pas là. Non, mais complètement naïve. Je lui dis, mais ça va la tête là. Mais et lui, il faisait des bons comme ça. Il dit, mais non, ça c'est non. Et il sera pas notre mariage. De même, les ex n'ont pas à être à votre mariage. Pas une évidence. Ils sont voilà. Et bien souvent, avec les, je disais les ex, parce que il y a des tentations qui peuvent venir avec plusieurs années de mariage. Des gens, ah ben une copine que j'ai eue au collège, au lycée, que je retrouve sur Facebook. Ah tiens, si on se voyait, etc. Tous les deux, en dehors de la maison. Etc. Et c'est comme ça que ça dérape. Donc, vraiment, d'avoir une garde du cœur. D'avoir des limites. Et puis un autre point, vous serez l'un pour l'autre la dernière amitié de l'autre sexe. Vous serez l'un pour l'autre la dernière amitié de l'autre sexe. Ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut être pour être ami? Parce que comment a commencé votre histoire sinon comme une amitié? Vous n'êtes pas sauté dessus comme ça. Non, il y a d'abord, vous êtes approché, vous êtes parlé, vous, etc. Vous avez raconté votre vie, puis soit en devisant sous la grande ourse, etc. Et puis, vas-y, que je te raconte, et tu commences une parole, une phrase, je la termine, etc. C'est extraordinaire, mon père. Bon, voilà, donc bon. Bon, vous avez tous connu ça, ce moment, et qui est magique, qui est un moment extraordinaire. Mais ça, ce sera la dernière fois. Et si vous voyez ce que je trouve extraordinaire dans notre foi catholique, il y a côté vertigineux du mariage. Il y a aussi, d'une certaine manière, un arrachement du cœur, de dire, ce sera la dernière amitié de l'autre sexe. Je ne poserai plus de gestes intimes, etc., qu'avec cet homme-là, cette femme-là. Et je trouve ce côté one shot du mariage à l'Église, je trouve extraordinaire. Parce que ça donne toute une gravité, toute une force, toute une. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, vous serez l'ami. Et donc, pas de one-to-one avec les personnes de l'autre sexe. Dernière amitié avec la personne de l'autre sexe, etc. Et ne laissez rien entrevoir qui se rapprocherait d'une forme d'intimité. Je vous donne un exemple. J'accompagne un couple et elle, bon, elle doit aller chez le kiné, etc. Bon, jusque-là, reine difficile. Si ce n'est que le kiné lui demande, bon, d'enlever sa chaîne, etc. Bon, parce que de faire un massage, j'en sais rien, bref. Et elle enlève sa chaîne. Bon. Et au moment de remettre sa chaîne, elle n'y arrive pas. Et du coup, c'est le kiné qui prend le truc et qui lui remet sa chaîne. Elle m'a dit, je me suis senti tellement mal, parce que pour moi, c'est un geste intime. De même, s'il faut remonter le zip de votre robe, mesdemoiselles, vous ne demandez pas qu'à un passant dans la rue, quoi. Donc, et vous demandez ou à une autre fille ou à votre fiancée, mais pas à quelqu'un. Il y a des gestes. De même, prendre quelqu'un. On sent. Vous savez, quand il y a des manques de fidélité, il y a déjà des warnings avant. Par exemple, je me souviens comme ça, cette fille, elle faisait c'est pas du covoiturage, mais du comoturage, si on peut dire, je ne sais pas si le mot existe. Du coup, en allant au travail, elle était avec un collègue sur la moto, du coup, il la prenait, etc. Elle s'accrochait derrière, elle ne s'est jamais décrochée. Ben oui, c'est absolument imprudent. Il y a des trucs qui sont imprudents. Oui, c'est des trucs. Et dans le milieu professionnel, je me rappelle avoir accompagné un couple. Lui, il était commercial. Bon, il était une grosse dans la auprès de la grande distribution, etc. Et je lui pose la question, comme commercial, bah, du coup, tu fais des tournées, tu avec t'as parfois deux, vous allez visiter les supermarchés, les hypermarchés, vendre votre affaire, etc. Il me dit, bon, maintenant il est directeur commercial, il fait plus ça, mais il dit, oui, pendant tout un temps, on était 8 heures par jour ensemble avec ma collègue. Il aurait pu se passer quelque chose. Quand c'est pas des propositions comme ça cash. J'accompagne un couple, elle va avec son chef, etc., dans le cadre professionnel. Le mec lui dit, ça te dérange pas si je te prends sur la banquette arrière? Et si on fait l'amour là maintenant sur la banquette arrière, c'était OK? Mais comme si, passe-moi le sel, je veux dire, c'est dingue. Une autre, une fille qui est dans la médecine, etc., et qui est, je vais accompagner un couple de deux internes, etc. Elle, durant une nuit de garde, elle était externe à cette époque-là, elle était en chirurgie orthopédique, etc. Le chirurgien dit, est-ce que tu es d'accord qu'on fasse l'amour là maintenant? Et elle, quand même, elle était gamine quand même, hein, elle avait 24 ans, etc. Elle lui dit, et votre femme, elle en pense quoi? Parce que tout ça avec l'alliance aux doigts. Et lui, ben, du coup, non, elle sait que j'ai beaucoup de besoins sexuels, etc. Tu vois, il rationalise, mais bon. T'es pas apaisé, il n'y a pas quelque chose qui est pas. C'est sûr qu'on peut. Voilà, c'est là une dépendance, sexe addict. Oui, n'oubliez pas que vous êtes dans un monde où la question de la fidélité n'est plus au rendez-vous. Ou voire vous avez des sites qui vous invitent à l'infidélité. Soyez doublement fidèle. C'est-à-dire, vous avez votre épouse et vous avez quelqu'un d'autre. Votre mari et quelqu'un d'autre. Donc, soyez. Parce que c'est tellement destructeur, ça. Parce que j'accompagne des couples qui ont été blessés par l'infidélité. Et qui souvent va avec le mensonge. Parce qu'à un moment donné, l'autre l'a découvert. L'a découvert à travers un portable, oui, comme ça, cette jeune femme, etc. Sans vouloir. Alors, si vous commencez à fouiller le portable de l'autre, dites-vous que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas ta jalousie qui va être gardienne de sa fidélité. Ça, en aucun cas. Ce n'est pas en étant possessif ou possessive. Qu'on garde. Non, ça fait plutôt fuir. Hein. Plus tu me suis, plus je te fuis. Hein, non, c'est de se dire qu'il y a là quelque chose qui n'est pas en place. De voir que. Donc, c'est pas le fait. Mais il se trouve qu'elle est tombée sur son portable, lui a demandé ça. Et elle a découvert, comme ça, sans vouloir, un texto, comme ça, d'une des filles, un texto un peu salace, etc. Sans équivoque. Tu es l'homme de ma vie, tu es monsieur, machin, etc. Mais il dit à son mari, c'est quoi ça? Ah, mais il ne s'est rien passé. Vous voyez, c'est. Et du coup, forcément, ensuite, mais c'est pas en fliquant l'autre qu'on garde l'autre fidèle. Certainement pas. Donc, cette question de la fidélité, de ne pas baisser les barrières, de garder. On ne se confie pas à une personne de l'autre sexe, surtout de ce que l'on peut vivre dans son couple. Oh, tu sais que mon mari, en ce moment, c'est pas. Du coup, je m'épanche comme ça avec l'autre, etc. Et puis même, je pense que les questions de prudence, de distance, je me rappelle comme ça cette jeune fille, etc., qui est vraiment une jeune fille tout à fait saine, etc., et qui. Mais très bon public. Très bon public, et donc, du coup. Elle va dans une soirée et un de ses amis revenait d'Amérique latine. Et du coup, il lui fait le récit de son voyage. Et elle était complètement. Mais elle a buvé ses paroles. Mais une heure durant, pendant la soirée, avec son fiancé, dans la soirée qu'elle n'a pas vue, quoi. Et donc, du coup, je lui dis, là, tu vois, t'as manqué à la prudence. Que tu écoutes, etc. Mais tu ne veux pas être comme ça, boire l'eau. L'autre, il dit, mais C'est pas possible, cette fille-là, je l'ai complètement séduite, quoi. Ça fait une heure que je parle et elle rit à toutes mes blagues nulles, etc. etc. Mais c'est bon, c'est dans la poche. Mais elle ne pensait pas comme ça. Il y a des formes de naïveté. Aussi, je vois une autre fille, et du coup, je pose la question à son fiancé, là, celle-là. Je lui dis, est-ce que tu as été, ça t'a gêné? Il me dit oui. Je me suis senti gêné que pendant une heure, ma fiancée soit avec un garçon à rire, à machin, etc., en me laissant un peu de côté. Je ne demandais pas qu'on soit que collé, etc., mais à minima, une heure, c'est quand même pas mal dans une soirée. De même, dans une soirée, la question de l'alcool. Évidemment, la question de l'alcool dans les soirées. L'alcool fait baisser la garde. J'ai accompagné un couple, mais ils ont eu beaucoup de courage, etc. Jeune couple, dans une soirée arrosée, et puis avec le très bon ami couple, parce que dès que c'est trop proche, que ce soit une personne seule ou un couple avec un autre couple, ils étaient deux couples amis, ils partaient tout le temps en vacances. Dès que c'est fusionnel, warning. Et bien, du coup, arrivé ce qui est arrivé, un baiser volé comme ça avec avec la fille de l'autre couple, etc., parce que les deux étaient un peu méchés. Et lui, il l'a dit, etc. Ils ont refait une préparation au mariage après, étant mariés. Donc, et du coup, je pense qu'ils en sont sortis. Puis maintenant, voilà, on sort d'une crise comme ça par le haut. Et dites-vous que des crises comme ça, de manque de fidélité à l'extérieur, ce sont des crises qui révèlent quelque chose de l'intérieur. Même si c'est l'un qui faute, dites-vous que c'est les deux qui sont responsables. Pareil, des imprudences. Une fille, elle me dit, elle ne s'en rendait pas compte, etc. Mais elle arrive, alors il y a des formes de pulls, j'ai découvert assez étonnantes, où en fait, il y a la manche là qui est couverte, mais là, ce n'est pas couvert. Je lui dis, elle n'a peut-être pas eu assez d'argent pour s'acheter la totalité de la manche, etc. Du coup, vous voyez comment c'est l'épaule découverte. Une épaule est découverte. C'est quoi ça? Là, dans le secteur, il y a deux habitants, les sangliers et les moines. Je veux dire, tu sais quoi ton épaule dénudée, là, tu me fais quoi, là? Je lui ai dit, c'est quoi ce truc-là? Ça, c'est non. Bon voilà, on était en plein hiver en plus, etc. Bon, là, vous soyez un peu avec l'été, je veux bien, mais bon, mais de même, je me rappelle comme ça, une fille qui arrive, etc. C'est la bonne première rencontre, hyper maquillée, hyper. Je pensais qu'elle allait en soirée, elle venait juste me voir. Je lui dis, ça va pas s'amuser beaucoup hein, avec moi, ça va pas être du fun. Hein. Donc là aussi, je pense que la deuxième fois, elle l'a mise en veilleuse, etc. Si moi j'ai découvert ça, t'en fais pas que ton collègue, il l'a vu. Si tu arrives comme ça au travail, t'en fais pas que. Si moi, homme, j'ai vu, je me suis dit, tiens, cette fille-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui ai dit. Mais son collègue l'a vu, il dit, cette fille-là, elle cherche quelque chose. Hein, de même, cette fille qui, pendant. Enchaîne 7 danses d'affilée avec le même cavalier. Mais mon père, il dansait comme un dieu. Et mon fiancé, comme un pied. Donc, le fiancé à côté. Et donc, mais je lui dis, au bout de la troisième danse, je t'assure que ton cavalier a arrêté de penser au Sacré-Cœur de Jésus. Ça, je te le dis tout de suite, ça, c'était pas sa priorité maximale. Ça, si tant est que ça le fut, même dès la première danse. Mais voilà, c'est imprudent. C'est imprudent. Ne vous mettez pas dans des situations. Où on pourrait laisser penser que. Oui, vous ne mettez pas dans des situations comme ça. Vraiment. Et surtout qu'il y a des warnings. Et du coup, parfois, on veut se prouver que on plaît. On veut se prouver que on est en quart du sex appeal. On veut se prouver quoi. Non, tu n'as rien à prouver. Si tu as quelqu'un qui t'aime, qui a dit oui pour la vie, qu'est-ce que tu veux prouver à d'autres personnes extérieures, étrangères? Non. Oui, donc je pense que. C'est quelque chose en tout cas qui pour moi et pour moi ça c'est extrêmement important extrêmement et ça dit des manques de fidélité, ça dit des difficultés de couple, mais parfois aussi des difficultés personnelles, des besoins de plaire. Il y en a qui sont tellement dans un besoin d'approbation, tellement dans un besoin de plaire dans le regard de l'autre, d'approbation, d'encouragement, ils sont, ils vivent dans le regard de l'autre. Mais non, c'est vivre par procuration. Donc ça, c'est non. Oui, c'est des choses comme ça, c'est des trucs basiques, hein, mais si vous mettez ça en pratique, je vous assure, ben déjà, vous réduisez par... Et dès que vous tomberez amoureux de quelqu'un d'autre, c'est évident. Vous tomberez amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça me paraît une évidence même. Sur les milliards d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, il y a d'autres personnes qui vont vous toucher, qui vont... Parce qu'on est en attiré, grosso modo, par le même style d'homme, mais pas le même style de femme. Et donc, du coup, il y a d'autres personnes avec qui vous allez être attiré. Mais la question, c'est... le fait d'être attiré n'est pas un problème. C'est un fait. Hein, d'autant plus que vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec votre conjoint. Simplement, quand vous êtes attiré par quelqu'un, quand vous êtes séduit, séduite par quelqu'un, dites-vous... On peut être séduit par l'intelligence de quelqu'un, la beauté de quelqu'un, la culture, etc., etc. Et c'est vrai que ça change par rapport à son conjoint qu'on connaît depuis 10 ans, dont on a fait le tour, bon bref, qui dit toujours les mêmes blagues nulles, etc. Bon, qu'on connaît déjà 10 fois, qu'on a entendu 15 fois, mais bon, comme c'est la 16e et c'est un public nouveau, du coup, il veut briller en société. Bon. Voilà, mais du coup, dites-vous, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour renouveler ma qualité de relation? Si vous ne mettez pas en place des choses qui fait que qui rajoute de l'huile dans le moteur, c'est-à-dire qui fait que la relation, bah, du coup, elle se renouvelle aussi. Alors c'est sûr qu'on peut arriver à une routine, on peut arriver, etc. Non, mais justement, bah, parce qu'il y a à un moment donné, vous avez manqué de créativité. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme rituel pour, où vous vous retrouvez rien que tous les deux, sans les enfants, sans le chien, etc. Sans, voilà, une fois par mois, un week-end de temps à autre, mais rien qu'à deux. Oui, c'est comme ça que viennent les infidélités, qui fait qu'en fait, on va chercher combler à l'extérieur ce qu'on ne trouve plus à l'intérieur. Voilà, un peu sur cette question d'infidélité. Et puis, quelques paroles, parce qu'on a la messe ensuite, je ne veux pas trop tarder, paroles sur la question du jardin secret. Je trouve que parfois, on sent qu'il y a une culture ambiante de dire il faut être transparent. On est tellement transparent qu'on en devient invisible. C'est-à-dire que il faut tout dire. Il y a des gens qui, à flux tendu, partagent ce qui leur passe par l'esprit, avec leur fiancée, etc. Et donc, on dit, voilà, je me rappelle comme ça, un garçon, il dit, tiens, lui traverse une idée, tiens. Est-ce que je te serai toujours fidèle? Elle commence à lui dire comme ça. Bon, oui, ça peut traverser l'idée, mais il y a un filtre à avoir. Il y a un discernement à avoir dans les questions qu'on pose à l'autre. On peut se poser la question de oui, mais je trouve que ce n'est pas normal d'être à flux tendu. Je pense qu'il y a un discernement, il y a des choses, il y a un jardin secret. Fait partie de ce jardin secret, ce que les experts, justement, on a parlé d'ex. Vous n'êtes pas obligé d'interroger l'autre par le menu sur ses histoires amoureuses antérieures. C'est une préparation au mariage, c'est pas une enquête de police. Je veux dire, c'est, voilà, on suppose que si vous mariez à 30 ans, il y a peut-être une ou deux histoires un peu sérieuses. Voilà, mais point. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous rassurer? Vous voulez comparer par rapport à l'autre fille ou à l'autre garçon ou quoi qu'est-ce? Non, je pense que là, il y a une certaine. Ça fait partie du jardin secret. Je suppose que l'autre a eu une vie avant. Bon, ça me paraît assez légitime. Fait partie du jardin secret aussi la dimension spirituelle, c'est-à-dire vos intentions de prière. Fait partie de votre jardin secret ce que vous dites au prêtre dans la confession. En revanche, ne fait pas partie du jardin secret ce qu'il y a sur votre compte en banque. Plutôt ce qu'il n'y a plus sur votre compte en banque. C'est-à-dire que c'est plutôt ça, dans ce sens-là. Il y avait, mais il n'y a plus. Du coup, tu t'es acheté quoi? Et ça, alors, souvent, je vois l'organisation des couples, à 80% de la conjointe campagne, c'est chacun garde son compte perso, et ensuite, il y a un compte joint. Mais du coup, il faut que je sois capable de montrer à mon conjoint le relevé de mon compte perso. que mon compte perso soit pas le moyen de me payer des trucs que j'aime bien, mais en fait, on est un petit peu juste, donc je dirais pas trop grand-chose à mon conjoint, etc., parce que je me ferai plaisir, des petits plaisirs, etc. Mais non, là, ça fait pas partie du jardin secret, par exemple. Parce que du coup, il y a quelque chose du bien commun du couple. Voilà, ça, et donc ça doit être dit. Fait partie du jardin secret des confidences que vous avez pu avoir. Des gens qui vous ont confié un peu sur le sujet du secret. Voilà, tu sais, là, on m'a détecté un cancer, on m'a détecté, etc. Mais je ne l'ai même pas dit à ma femme. Tu vas pas rentrer de dire à la tienne dès que tu rentres chez toi. Non, savoir garder les choses. Alors, jardin secret ne veut pas dire vie secrète. Ça, pour le coup, j'étais confronté à un couple, justement, dans ces périodes de confinement qui avait suivi la retraite en ligne sur le discernement, et lui faisait partie de la franc-maçonnerie. Lui faisait partie de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il avait toute une vie secrète. Eh bien, finalement, ils ont rompu. Parce que je pense que, très clairement, en faisant partie de la franc-maçonnerie, il y a des choses que vous devez cacher à votre conjoint. Et ça, je veux dire, ce qui fait que ce n'est pas compatible avec un mariage à l'église. Et lui, ben, voilà, elle a dit, bon voilà, il était prêt à abandonner la loge dans laquelle il était, etc. Mais faut la franc-maçonnerie, bon, ça a une emprise très forte, je veux dire, dans le sens où ça prend trait de l'intérieur, parce que ça vous donne une sorte de pouvoir, accès au téléphone de gens qui sont influents, de gens qui sont importants, etc., de politiques, de chefs d'entreprise, voilà, de gens qui font l'opinion, de médias, etc., parce que, mais du coup, vous êtes obligé de cacher une partie de votre vie, parce qu'il y a des choses qu'on dit entre frères, comme ils ont dit, les entre frères, hein, on parle de frères dans la franc-maçonnerie, qu'on ne doit pas dire au conjoint. Oui, une vie secrète. Ça, c'est pas possible, ça. Jardin secret, vie secrète, c'est pas pareil que vie secrète. Donc, du coup, une vie parallèle. Des choses que, voilà, vous avez une autre vie, ou pendant un déplacement professionnel, pendant, etc., vous avez tout à fait une. Ça, c'est pas ça, jardin secret. Ça, c'est déjà le début de la tromperie. Voilà, je pense qu'il y a un discernement à faire, et ça on n'en parle pas beaucoup, du discernement à faire dans la parole. On n'a pas à flux tendu, à confier toutes les émotions qui nous traversent l'esprit, etc. Il y a des choses à garder pour soi. Alors, c'est un jardin secret, c'est pas une forêt amazonienne secrète. C'est-à-dire que c'est pas où il faut aller avec la pique, la pioche, etc., pour tirer une demi-émotion de monsieur, pour qu'il lui dise « Ah oui, c'était bien », non. Ça, c'est au secours, là. Alors, là, ça a été compliqué, là. Hein? Mais voilà, je pense que. Voilà, mes amis, est-ce que. On a 2 minutes un peu pour des questions. Est-ce que ça vous a. Oui, Alba. Alors, si on a une très forte attirance pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça fait partie du jardin secret? Tout dépend si cette personne, vous êtes amené à la revoir ou pas. Si il y a une personne, c'est dans une soirée, et du coup, tu as été séduite, Alban, par cette personne-là, et tu t'es dit, voilà, où on peut être excité par un homme, par une femme, mais quelque chose de passager. Je pense que ça fait partie. En revanche, si c'est quelqu'un qui est un collègue de travail et que je suis amené à revoir, avec qui je passe de longues heures, etc., je pense que c'est bien d'en prévenir l'autre. De dire, écoute, là, je suis séduit par cet homme-là. Et du coup, je vous donne un exemple. Dans d'autres retraites de préparation au mariage, parfois, il y a des couples qui venaient témoigner, etc. Et j'invite un couple de mes amis qui ont une cinquantaine d'années, 5 enfants, etc. Bon, archi impliqués dans la vie de foi, etc. Lui, vraiment un type hyper droit, pas du tout dragueur, mais pas du tout, vous voyez, mais vraiment un homme très, très, d'une sobriété, très discret, très bon. Vraiment un super couple. Lui change de travail. Il passe de l'industrie à la banque. La banque est un monde très féminisé. Et du coup, il sympathise avec une de ses collègues. Jusque-là, voilà. Vraiment, il ne s'est rien passé. Et il décide d'inviter cette collègue avec son mari chez lui, avec sa femme, etc., pour un dîner. Bon. Le couple part. La femme lui dit, est-ce que tu te rends compte que tu es amoureux? Il n'en avait pas pris conscience. Il n'avait pas pris conscience qu'il était attaché. Et le lendemain, il posait sa démission. Voilà. S'il y a des situations, ben il dit, oui, je ne peux pas me mettre en danger, etc. Vous retrouverez des gens avec qui vous allez accrocher, qui ont le même niveau d'études, qui ont la même appétence, les mêmes goûts, peut-être les mêmes convictions aussi religieuses, les mêmes, etc., avec qui vous allez, même les convictions politiques ou sociétales, vous allez être raccord sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'homme de ma vie, la femme de ma vie, ça ne veut rien dire. Il y a des tas de personnes avec qui on peut faire une vie, heureusement. Donc, je pense, si là, si c'est simplement de façon passagère, je pense que c'est bien de le garder pour soi. Maintenant, si on commence, il commence à y avoir un échange de textos, etc. Maintenant, écoute, là, ce garçon-là, ça fait plusieurs fois, je regarde le texto que j'ai reçu. Du coup, je crois que c'est important que ça rassure l'autre. Et voilà, moi, je pensais pas du tout, j'ai rien fait pour ça, regarde le texto que j'ai reçu. Bon. Et ce qui fait qu'on est en transparence par rapport à ça, quoi. D'autres questions?